Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. À travers l'histoire du petit poussé, c'est le visage du mal qui apparaît. Le mal incarné dans le personnage de l'ogre qui, d'un point de vue psychologique, représente le prédateur sexuel, le pédophile. En relisant ce conte à la lumière de la psychanalyse, nous allons nous interroger, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, sur les ressorts pervers qui animent la nature humaine et ouvrent en nous les portes du mal. Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, ce sont des questions difficiles et vous êtes aussi médecin et vous avez aussi travaillé sur la fin de vie, sur la souffrance qui est aussi une forme de mal, même si c'est un mal sans finalité comme nous l'avons vu il y a 15 jours. Alors, il faut savoir se mettre à l'écoute du mal et à l'écoute des personnes qui souffrent, voire des personnes qui sont responsables du mal.
Oui, ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que du côté de la souffrance, au fond, de manière un petit peu schématique, il me semble, dans votre question, entendre quelque chose autour de la souffrance somatique. Voilà, bon, c'est une chose, on la voit par exemple en fin de vie, dans le cas de cancer ou d'autres choses. De la souffrance psychique, et là bien évidemment, c'est mon métier de psychanalyste, de l'écouter. Et puis aussi de la souffrance sociale.
Puis de la souffrance, du mal que les gens peuvent provoquer, voilà. De vos patients, je ne sais pas, qui ont pu provoquer sur leurs enfants ou sur...
Voilà, tout à fait.
Ce sont des questions qu'il faut recevoir, qui ne sont pas faciles à entendre.
Non, en sachant que les psychanalystes en général ou les psychothérapeutes reçoivent essentiellement des gens qui ont été victimes du mal et pas qui sont les auteurs du mal.
Parce qu'elles peuvent être auteurs sans le savoir, sûrement. Sans s'en rendre compte.
Oui, mais probablement. Enfin, on avait évoqué ça la dernière fois. Hein, je crois que pour commettre le mal et qu'il soit puis défini comme tel, il faut qu'il y ait une conscience du mal. Hein. C'est-à-dire l'éveil chez l'enfant de la connaissance du bien et du mal passe par un apprentissage. Hein. Freud disait l'enfant, c'est un pervers polymorphe. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'enfant, il est pervers du tout. Ça veut dire qu'il va essayer tout. Je reprends un exemple très simple parce que je trouve que c'est souvent plus facile à comprendre. Le petit enfant qui a 3-4 ans et qui prend une petite fourmi et qui l'écrase dans ses doigts, puis qui la repose après, il n'a pas du tout conscience qu'il fait mal. S'il prend un petit oiseau, par exemple, et puis qu'il se dit, il l'a attrapé dans ses mains, je ne sais pas trop quoi, ou il l'a pris dans la cage, par exemple, puis il va le mettre sous l'eau, dans la baignoire, jusqu'à qu'il ne bouge plus, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est quand même choquant pour nous adultes. Mais il ne commet pas le mal parce qu'il n'a pas conscience de ça. Hein. S'il attrape la queue du chat et puis qu'il essaye de l'allumer comme une bougie parce qu'il trouve ça très drôle et qu'il a bien vu que ça ressemblait à la mèche d'une bougie, l'animal ne va pas être très heureux, mais il n'a pas conscience du mal.
Et hein. L'enfant égocentrique qui torture psychologiquement ses parents, est-ce que il a conscience du mal qu'il fait ou pas? On peut se poser la question parfois, parce qu'on entend de nos jours les coachs en parentalité qui vont dire non, c'est juste une façon de s'exprimer, une façon d'exprimer une souffrance. Je suis tout à fait prêt à l'entendre, mais il semble parfois qu'il y ait des limites à cette compréhension.
Il y a toujours une limite, hein, puisqu'on a vu il y a 15 jours hein, que le rapport au bien et au mal passe par un apprentissage, une connaissance, et surtout par une intériorisation de ce que c'est que le bien et le mal. Donc ça passe évidemment par une limite. Hein. Dans l'exemple que j'avais donné il y a 15 jours du voisin qui m'embête, eh bien, cette pulsion que vous aviez évoquée de lui crever les pneus parce qu'il m'agace, c'est une chose, elle est là. Mais à l'intérieur de moi-même, je vais me dire non, ça ne va pas. Chez l'enfant, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une intention de faire mal chez l'enfant. Si l'enfant a du mal à rester dans le cadre de la loi, c'est que la loi n'est pas intériorisable pour lui. Alors pourquoi la loi n'est pas intériorisable? C'est compliqué, il y a plein de circonstances. Ça peut être par exemple parce que la loi n'est pas dite. Ça peut être parce que la loi est dite sans conviction de la part des parents. Soit parce que la loi est dite, mais que les parents n'appliquent pas la loi. Hein. Ils disent, je ne sais pas trop quoi, mets tes mains sur la table et finis ton assiette, mais l'enfant voit bien que les parents ne font pas comme ça. Soit parce que à chaque fois qu'il a transgressé, il n'a pas eu un rappel de la loi. Hein. Voilà, donc ça c'est important. S'il y a eu une loi qui est posée par les parents, la loi étant ce qui fait la limite, et ce qui fait la limite, c'est ce qui nous donne notre liberté. Hein. Voilà, Cézanne disait dans un autre contexte, l'art naît de la contrainte, mais la liberté, ça n'est pas je fais ce que je veux. La liberté, c'est j'ai choisi une loi, en particulier une loi morale, je l'ai intériorisée et je la vis. Hein. Voilà, c'est ça la liberté, c'est j'ai choisi ma loi et j'y obéis. C'est pas je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, ça c'est obéir à ses pulsions éventuellement. Hein. Donc je crève les pneus de mon voisin. Mais il y a quelque chose qui est plus élaboré et plus porteur de vie, c'est d'aller discuter avec lui et puis si ça marche pas, d'aller au commissariat ou voir le gendarme, c'est-à-dire utiliser un tiers. Voilà. Donc je pense que la connaissance du bien et du mal, elle n'existe probablement pas avant 6, 7, 8 ans, à quelque chose près, et après, elle se fait progressivement. Et c'est essentiellement au moment de l'adolescence, où il y a justement ce droit d'inventaire des lois parentales, que l'enfant accueille, évalue, pèse, et dit « ça, c'est une valeur de mon père, c'est une valeur de ma mère, je l'ai fait mienne parce qu'elles me vont bien ». Voilà, donc voilà.
Alors, passons la barrière et mettons-nous du côté de l'analysant, du psychothérapeute, de l'analyste, du soignant, de l'aidant qui, dans son travail quotidien, est confronté à cette question du mal.
Donc, il y a deux choses. Il faut prendre des situations concrètes. La majorité des gens, moi, que je reçois hein, dans mon cabinet et dont j'écoute l'histoire, sont le plus souvent des victimes. Hein. On pourra éventuellement parler des situations où il y a quelque chose qui est très très sombre chez eux et qui cause le mal. Ce ne sont pas les situations qui sont les plus faciles et de loin pour les psychanalystes. Hein. Parce que ce n'est pas facile à débusquer et puis parce qu'il va y avoir quelque chose qui va être dans un conflit. Alors que quand un analysant vient et qu'il est dans la souffrance, alors cette écoute, cet accueil et cette élaboration est aidante. Donc le plus souvent, il s'agit des gens qui ont été victimes. Et ils ont été victimes de quoi? Ils ont été victimes d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, de grands-parents, d'une situation familiale, qu'elle soit de type psychique, qu'elle soit de type organique, ou qu'elle soit de type sociologique, hein, par exemple une grande misère hein, voilà, familiale, une grande misère humaine, par exemple, vous voyez, hein, pas d'affect, pas d'émotion, pas de sentiment. Et ça peut être une vraie cause de souffrance. Alors dans certaines situations, eh bien, on a la perception de quelque chose qui est arrivé sans qu'il y ait d'intention, et puis de temps en temps, on a l'impression que voilà, qu'il va y avoir un père qui va être à peu près du même acabit que l'ogre, où on va avoir une mère qui va être à peu près comme la reine-mère de Blanche-Neige. Hein, voilà. C'est-à-dire où là, il y a quelque chose de l'ordre d'une violence qui a été faite à l'analysant. Hein, c'est-à-dire il a eu des parents qui ont été un plus ou moins des monstres. Alors c'est très important d'ailleurs de savoir que dans cette parole qui est énoncée, qui est partagée, qui est écoutée et puis ensuite élaborée, c'est toujours l'image intérieure du parent qui est active à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en particulier, je dis souvent, il y a des mères qui sont des véritables sorcières, entre guillemets, et qui deviennent de bonnes grand-mères. Hein. Voilà, ça existe et il y en a beaucoup. Il y a des pères qui sont des ogres, voilà, et qui ont des attitudes absolument pas respectueuses vis-à-vis de leurs enfants, ou qui sont complètement abandonnants, et puis qui ensuite vont pouvoir devenir de bons grands-pères. Hein, voilà. Donc, alors, la question, il me semble, que vous posez, c'est où est-ce qu'il y a une intentionnalité? Très honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que si Madame Dupont vient de me voir, et qu'au fur et à mesure de l'échange, elle va percevoir finalement que sa mère, qu'elle trouvait normale, se révèle à ses yeux en élaborant quelque chose, en racontant être une véritable sorcière, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le vécu de cette femme, c'est que à un certain moment de son histoire, sa mère, elle l'a vécu comme une sorcière. Est-ce que sa mère est objectivement une sorcière? Je ne sais pas, et c'est pas important, il me semble. D'autant qu'il n'est pas impossible que cette mère-là ait eu elle-même une mère qui était une sorcière. Même chose du côté des pères, voilà. Là, ce qui va être opérant, c'est la possibilité du récit, la possibilité d'être accueilli et de retrouver chez celui qui vous écoute la possibilité d'intérioriser une autre bonne mère ou un autre bon père ou un autre conjoint ou conjointe, vous voyez.
Voilà. Mais alors vous qui l'écoutez, qui recevez tout ce mal presque, comment on réagit et comment on l'assimile et comment on renvoie au contraire cette énergie positive?
D'abord, on écoute. Parce que le récit a, a une fonction cathartique, une fonction d'allègement. Hein. Si vous avez hier matin quelqu'un qui vous est rentré dedans quand vous veniez à votre travail, il y a des chances que le soir, vous le racontiez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à vos voisins. Vous allez le raconter. Si ce n'est pas très grave, vous le racontez 2-3 fois. Si c'est quelque chose qui vous a beaucoup traumatisé, vous allez le raconter beaucoup. Donc, il y a cette fonction du récit qui compte. La deuxième chose, c'est que c'est un récit qui est écouté, c'est-à-dire qui est partagé. C'est-à-dire, l'analyste, lui, il écoute et il écoute de manière active. Le troisième temps qui est important, c'est l'élaboration. C'est-à-dire, mais comment on peut comprendre ce qui s'est passé, par exemple, madame, entre votre mère et vous? Et on va essayer de comprendre pourquoi la mère a été comme ça avec vous, madame, la position que vous aviez vis-à-vis de vos frères, de vos sœurs, quelle était la position de votre père, de votre mère. Et ça va permettre, en général, de diminuer la souffrance, non pas que ça diminue les faits, que ça change les faits, mais parce que, à partir du moment où on commence à prendre un petit peu prise sur ce qui nous est arrivé, alors, en général, on est un petit peu soulagé. Et puis, le troisième chose, qui est probablement le plus important, c'est que dans cet échange, il va y avoir quelque chose de la possibilité de devenir soi-même une bonne mère, par exemple, par le biais du lien. Voilà. C'est-à-dire c'est le lien qui va être thérapeutique. Donc, dans le lien entre l'analysant et l'analyste, la fonction du récit est très importante, l'élaboration est très importante, mais ce qui est le plus aidant et ce qui va permettre le plus d'avancer, en particulier quand on a beaucoup subi le mal, c'est la relation. C'est la relation qui restaure, c'est la relation qui répare, c'est la relation qui soigne.
Alors ce que j'entends dans ce que vous nous dites, docteur Dominique Michel, c'est que l'empathie, évidemment, est la qualité première pour celui qui va écouter, qui va recevoir ces témoignages du mal.
Oui, je crois que c'est très important. C'est une empathie qui est active, qui nécessite d'être touchée à chaque fois, et en même temps, de ne pas être trop troublé non plus, et de ne pas être bouleversé, parce que si on est bouleversé, hein, souvent j'utilise ces trois adjectifs, hein, touché, troublé, bouleversé. Si on est bouleversé, en général, ça ne va pas. Hein. Et moi, je sais des quelques situations où j'ai pu recevoir des pervers, il y a quelque chose, voilà, je ne me sentais pas trop la capacité à faire ça, puis souvent, c'est des gens qui ne bougent pas du tout. Voilà, donc je prends pas de gens pervers, moi, voilà, en analyse, et puis d'ailleurs, en général, ils viennent pas, ou s'ils viennent pas, c'est pour faire semblant, faire leur cinéma et raconter à côté d'eux-mêmes.
Alors cette empathie, elle semble être le meilleur remède pour lutter contre le mal. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je crois qu'on a retrouvé cet adage sur des tablettes de Mésopotamie qui datent depuis la nuit des temps.
Oui, d'ailleurs, probablement, c'est bien cette identification à l'autre qui fait que, justement, on est capable d'écouter. Hein, peut-être tous les psys, ils ont des raisons un tout petit peu louches d'avoir fait ce métier. C'est-à-dire, ils ont quelque chose de leur propre blessure dans lequel ils ont établi un lien d'existence. Ça leur a donné la possibilité d'exister, d'écouter. Et à partir de là, justement, ils ont la possibilité plus facilement d'être dans ce jeu d'identification sans être emporté dans la souffrance de l'autre et sans être emporté par le mal que l'autre a éventuellement subi.
On comprend bien que si on se met à la place de l'autre, l'idée de le faire souffrir déjà est beaucoup plus compliquée à mettre en action.
Exactement, exactement. D'ailleurs, c'est là-dessus que repose le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire je n'ai pas envie que l'on me fasse ça à moi. Donc, je ne le fais pas à l'autre. Hein. C'est la morale de Kant. Hein. Agis pour que tes principes soient valables pour l'humanité entière. Hein.
Et pourtant, malgré cette empathie, malgré une éducation banale, correcte, Est-on forcément à l'abri de basculer dans le mal extrême? On voit les souvent dans des moments évidemment tragiques de conflits, des populations entières qui vont se retourner pour lyncher un pauvre gars qui n'a rien à voir avec l'histoire.
Alors, il y a deux éléments dedans. Ce que j'aurais envie de répondre, c'est que pour moi, en tout cas, l'énigme du mal et d'une sorte de mal profond qui persiste, elle reste finalement entière. Hein. J'ai pu expérimenter, par exemple, que au sein d'un groupe de mes confrères psychanalystes, j'ai pu voir de temps en temps des attitudes qui me semblaient au fond profondément perverses. Je ne dis pas du tout que les gens étaient pervers, mais qu'ils avaient des attitudes et des comportements pervers, et ça m'a énormément troublé, quoi, de pouvoir me dire que ces gens qui ont fait 10, 15, 20 et parfois plus années d'analyse n'avaient pas pu rejoindre cette part d'une pulsion puissante, mais d'une pulsion qui se met en acte, et qui agit et qui fait le mal vis-à-vis de l'autre. Donc, je crois que chacun, en effet, est susceptible de basculer dans le mal extrême à un certain moment. Ce qui me semble, c'est que dans la vie, il faut avoir expérimenté en soi, en particulier dans son enfance, un vécu de bonté. Ça vient nourrir et solidifier notre espace de bonté. Si on a vécu beaucoup l'expérience du mal, si on a été victime du mal, il y a des chances, en effet, que on le vive comme une espèce de presque de normalité, au fond, vous voyez, hein. Donc, je pense qu'il restera toujours quelque chose autour d'une énigme du mal qui nous échappe. Et je pense que l'idée de la liberté par rapport à la perversion, par exemple, elle ne tient pas la route, vous voyez, par exemple. Hein, parce que, voilà, on ne peut pas dire du tout pour le pervers que lui, il exerce sa liberté par rapport à quelque chose. Non, il est assujetti à une modalité psychique. Hein, il y a plusieurs, il y a les névrosés, il y a les borderline, il y a les psychotiques, il y a les mélancoliques, et puis il y a les pervers. Les pervers, c'est une modalité d'être qui fait que, justement, le mal est possible presque sans intention, parce qu'il n'y a pas d'autre. Hein, voilà, c'est-à-dire, le pervers va traiter l'autre comme il traite un objet. Voilà.
D'où l'importance pour quiconque, pas simplement pour les patients, mais pour n'importe qui, de faire ce travail intérieur qui va nous permettre de rechercher en nous peut-être ces zones d'ombre, en tout cas mettre le doigt dessus, même si on ne veut pas les guérir, comme vous dites, mais en tout cas en avoir conscience que cette zone d'ombre, elle est là, pour que le jour où le contexte fait qu'elle puisse ressurgir, eh ben, on soit au moins préparé à ça, quoi. Et puis peut-être la réfréner, dans le but, évidemment, de la réfréner.
En tout cas, dans le but de l'évaluer.
De l'évaluer, bien sûr.
Voilà, ouais. De l'évaluer d'abord, parce qu'ensuite, c'est compliqué. Moi, je pense que, je ne dirais pas que de temps en temps, le mal surgit à l'intérieur de nous-mêmes. Je dirais la possibilité de faire le mal, elle est là toujours en permanence, toujours. Alors, évidemment...
Oui, mais je veux dire, dans certains contextes, il y a une espèce d'hystérie générale qui nous pousse par l'émotion, par...
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Je favorise cette émergence, en tout cas.
Oui. J'écoutais en venant là sur une autre radio un témoignage de quelqu'un qui avait eu des propos antisémites et qui disait, en gros, pour faire un tout petit peu court, qu'il avait été entraîné par un collectif, voilà, où il s'agissait de frimer un tout petit peu et voilà, et qu'ensuite il le regrettait. Donc je pense que à l'intérieur de nous-mêmes, cette propension au mal, elle est toujours là. Et si nous croyons que le mal est autre, qu'il est ailleurs, alors on va considérer, nous nous considérons comme bons et nous nous aveuglons contre nos propres failles, nos propres faiblesses, nos propres creux moraux. Je crois que les monstres parcourent la vie réelle, ils peuplent nos nuits, ils sont toujours susceptibles d'être là. Il reste difficile, il me semble, à cerner. Et je pense que cette vigilance à l'intérieur de nous-mêmes, elle doit être là en permanence.
Alors, nous allons aborder une autre grande question à propos du mal. Nous l'avons vu il y a 15 jours avec le mythe de Gigès, dont vous allez nous rappeler les grandes lignes. C'est le mal et l'exercice du pouvoir. Et on le voit aussi avec notre histoire du petit poussé. Les pédophiles, c'est aussi l'adulte qui a un pouvoir sur l'enfant, en tout cas un pouvoir physique, une force physique, et qui va donc en abuser, non pas en toute impunité, mais en tout cas qui va pouvoir en abuser.
Oui, alors Gigès, c'est une sorte de berger qui découvre un anneau, qui le rend invisible. Il met cet anneau, il va voir le roi, il le tue, il épouse la reine, et puis voilà. Et donc la question derrière, c'est est-ce qu'on peut rester honnête ? Est-ce qu'on peut commettre le mal en toute impunité si on peut faire ce mal de manière invisible ? En sachant qu'on le fait, mais on n'est pas désigné. Alors, cette question est une question complexe, parce que c'est vrai que dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire du XXe siècle, il y a eu quand même quelques grands drames où on pourrait dire qu'il y a une sorte de perversion collective qui s'est mise en scène. Je crois que c'est aussi de cela dont parle en effet le petit poussé, l'ogre, comme vous le rappeliez. C'est un amateur de chair fraîche. La chair fraîche, c'est la chair de l'enfant. Il exerce son pouvoir, et il l'exerce comme le font tous les grands criminels du monde, c'est-à-dire sans limite, en toute impunité. Hein. Si on regarde l'exemple du nazisme, on voit bien qu'il a déployé toutes ses ombres et sa violence au point de désigner un peuple comme étant un objet qu'il fallait éliminer, dans une forme de jouissance qui n'avait aucune finalité, évidemment aucune raison d'être, et où il a bien fallu une coalition presque du reste du monde pour combattre ce mal-là. Quand le mal est agi par ceux qui n'ont pas de pouvoir spécifique, c'est vrai que sa capacité à persister va disparaître. Voilà, parce que vous avez envie de faire le mal, mais vous n'avez pas la possibilité de le faire. Hein. Vous avez envie de crever les pneus de votre voisin, mais on vous interdit l'accès au couteau, ou l'accès même à la voiture du voisin, ben, il n'y a pas de problème. Donc, les forces de loi reprennent à ce moment-là leur contrôle, leur efficacité, et puis les choses se passent bien. On peut voir, je crois d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé un petit peu juste avant, les prémices de ça chez l'enfant, qui, dans une espèce de toute-puissance souvent imaginaire, va se mettre à expérimenter. Et il peut expérimenter au mépris de l'autre. D'ailleurs, je rappelle souvent que l'interdit du meurtre s'enseigne à l'enfant, c'est « arrête de taper ton frère » ou « arrête de taper ta sœur ». Voilà, ça c'est une manière de dire « il y a une valeur morale qui est « il s'agit de respecter l'autre ». Donc dans cet espace-là, au fond, qu'est-ce qui se passe sur le plan éducatif ? C'est le petit noyau pervers de l'enfant qui expérimente et qui se dit bah, « finalement, si je peux prendre ma sœur et puis la balancer par la fenêtre parce que je suis tranquille dans ma chambre et je peux lui piquer ses billes », il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va névroser l'enfant, en quelque sorte, et on va aller verrouiller son noyau pervers. Vous sentez ce que je veux dire, hein ? Voilà, il y a ce petit noyau pervers à l'intérieur de tout le monde, susceptible de ressortir, mais la loi et l'éducation vont faire qu'on verrouille ça et qu'on devienne névrosé, c'est-à-dire qu'on est dans un conflit entre le bien et le mal à l'intérieur de soi-même. Et il y a lieu de rappeler que, comme je le disais l'autre fois aussi, que c'est la liberté de l'enfant qui grandit, c'est l'intériorisation, enfin ça passe par l'intériorisation d'une loi.
Alors, dans notre conte du petit poussé, docteur Demichel, j'aimerais savoir, eh bien, pour terminer cette émission, où se place la loi ? Nous sommes dans un univers de contes où oui. Les ogres sont tout-puissants, où les forêts sont maléfiques, où les parents ne font pas leur rôle de parents. Alors, où est la loi ? Et le roi absent, j'oublie le roi absent qui ne sert à rien, sauf à la fin.
Voilà, ce qu'on voit bien, le roi qui est à la même problématique, hein, vous vous rappelez un petit peu dans l'histoire comme ça, hein. Donc l'ogre, on pourrait dire, ça représente quelque chose de l'ordre de la pulsion, c'est de l'archaïque, c'est...
Il a le pouvoir, effectivement.
Voilà, et bien évidemment, il est hors la loi, hein, quand le petit poussé, lui, va expérimenter quelque chose. D'ailleurs, quand il change les couronnes, hein, il les enlève de la tête sur ses frères. Donc l'ogre se trompe et il va aller violer ses filles au lieu d'aller violer les petits garçons. Je rappelle que chez les pédophiles, En général, il n'y a pas de préférence sexuelle, c'est-à-dire ils sont capables, c'est un peu horrible ce que je raconte, mais de violer les petits garçons comme les petites filles, il n'y a pas de préférence particulière. Voilà. Donc lui, au fond, il a intégré la loi en sauvant ses frères, le petit possé. Lui, au fond, il résiste à l'ogre et il renvoie la violence de l'ogre à sa propre famille. C'est-à-dire, c'est ton histoire, toi, l'ogre. Hein? Donc tu vas aller tuer et agresser et violer quoi ? Ici, symboliquement, on pourrait dire c'est la féminité de l'ogre représentée par ses filles. C'est-à-dire une féminité qui est encore enfant, qui a été détruite et que l'ogre détruit. Il met en scène ce qui est déjà manquant chez lui, c'est-à-dire cette capacité à rentrer en relation, ici représentée par le féminin.
Docteur Dominique Desmichel, notre émission touche à sa fin. Vous vouliez rajouter un dernier mot ?
Ce qu'on peut juste dire, c'est que quand il chausse les bottes, puisque je vous rappelle, c'est là où le récit bascule, il surmonte sa peur, il dépasse quelque chose, et à partir de là, il va revenir dans un autre territoire. C'est le territoire que vous venez de nommer tout à l'heure. C'est le territoire du roi, mais c'est un roi qui est en guerre. La guerre, ça existe, et ce n'est pas de l'ordre de la perversion, on va dire, pour dire les choses un petit peu simples. Donc il y a quelque chose qui s'est déjà amélioré, on est en état de guerre, mais il y a quand même un problème. Et il va falloir que le petit poussé soit aussi le messager entre le roi et ses soldats, entre les hommes et les femmes. Donc le petit poussé, il est réparateur. Du côté des pulsions terrifiantes, pédophiles de l'ogre, il lui dit « c'est ton histoire, reste au fond de ta forêt ». Du côté de la vie, il dit au roi « il faut faire du lien entre le masculin et le féminin ». Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se résout.
Eh bien, c'est sur cette conclusion que nous allons arrêter notre émission. Docteur Dominique Desmichel, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Merci Simon, au revoir.
In a neat little town they called Belfast, apprentice to a trade I was bound. And many's the hour of sweet happiness I spent in that neat little town. Till a sad misfortune came over me that caused me to stray from the land. Far away from me friends and relations, bitterate by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds, I thought her the queen of the land. But their hair it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. As I went strolling down Broadway, not intending to stay very long, well, who should I meet but this pretty fair maid, come to rape sing along the highway. She was both fair and handsome, her neck it was just like a swan, and her hair it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds, I thought her the queen of the land. But their hair it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. Well, I took a stroll with this pretty fair maid and a gentleman passing us by. Well, I knew she meant the doing of him by the look in her roguish black eye. I got what she took from his pocket and she slipped it right into my hand. And the very next thing that I said was, bad cess to that black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds, I thought her the queen of the land. But their hair it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band. Before the judge and the jury, next morning I had to appear. And the judge, he said to me, young man, the case against you is clear. We'll give you 7 years penal servitude to be spent far away from the land. far away from your friends and relations, bitterate by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds, I thought her the queen of the land. But their hair it hung over her shoulders, tied up with a black velvet band.